Planissez la route, tout homme verra le salut de Dieu.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre tout en place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors, les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Évangile, Seigneur, efface nos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Voilà, nous retrouvons tous dans l'élan de toute l'Église à la surface de la terre, dans les terres des cieux, dans la gloire de la lumière surnaturelle et glorieuse de la vision béatifique, ainsi que toutes les âmes en attente dans la purification. Nous sommes tous dans un élan que partage l'Immaculée Conception, dans celle qu'elle vit, dans la gloire de son ascension, que partage le Christ avec nous, en nous, à travers nous, cet élan vers le retour du Christ. Avant 40 jours, plus ou moins en 4 semaines, mais dans l'Église primitive, l'avance a duré pendant 40 jours, comme le carême. Nous préparons, nous sommes complètement tendus vers Noël, mais quand l'Église est tendue vers Noël, elle n'est pas tellement tendue vers un anniversaire de la nativité. Jésus, contrairement aux apparences, c'est effectivement nous, aussi Noël, en fait l'anniversaire de Jésus dans sa crèche, l'Église aide dans toutes les prières, dans les textes qu'elle choisit, dans les psaumes qu'elle choisit, elle demande à Jésus de revenir pour la dernière fois. Et c'est l'Esprit Saint qui inspire ça. C'est notre manière d'épouser le cœur du Christ, le cœur des saints, le cœur des martyrs qui sont déjà au ciel, le cœur de toute l'Église qui est dans la purification, et le cœur de la Vierge Marie qui n'a qu'un seul désir, c'est justement que Jésus naisse, qu'il revienne. Mais comme elle est dans la gloire, le seul moyen pour Jésus de naître dans une nativité glorieuse, c'est qu'il revienne, en jugeant les vivants et les morts. Et ce n'est pas tout à fait notre, on n'est pas tellement forcé à demander à Jésus de revenir, puisque la plupart du temps, quand on se met en face de Dieu, Seigneur, vraiment, de toutes mes forces, surtout si on sait qu'on induit un champ morphogénétique, c'est-à-dire que ça va être écouté, si on dit Seigneur, on revient plus possible. Il y a une voiture qui gêne, je ne sais pas à quel fait, si quelqu'un a eu conscience de gêner, il faut peut-être qu'il aille voir. Alors, vous voyez bien, on a du mal à désirer profondément, réellement, en face de Dieu, en face de nous-mêmes, oh, ce serait génial s'il y avait le jugement dernier demain. Hein, qui est-ce qui ce serait génial si... Mais non, parce que tout le monde, tout chacun, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on n'est pas très net, hein, on se dit, je ne suis pas encore prêt, ce serait mieux après-demain. Si on me dit, demande que Jésus vienne demain, et je veux bien demander à la rigueur qu'il vienne après-demain. Et si on me demande de demander qu'il vienne à Noël, là tu dis, plutôt Noël suivant. Hein. Mais c'est vrai, on n'est pas porté, on n'est pas prêt. On ne se sent pas prêt. On ne se sent pas prêt. Et l'Église, elle nous dit, si, il faut demander qu'il vienne demain. Parce que ce n'est pas nous hein, qui font, ce n'est pas nous qui font que nous sommes prêts. C'est Dieu qui fait qu'on est prêt. Et là, encore, on épouse ces désirs de tous ceux qui sont au purgatoire, quoi, là, l'Église souffrante. Quand on épouse ces désirs de tous les martyrs qui sont dans la sixième trompette, sous l'autel de l'Apocalypse, qui demandent, enfin, Seigneur, quand est-ce que tu... Jusqu'à quand tu vas tarder, enfin. Ils attendent la résurrection de la chair. Et nous, nous attendons quand même que le mal arrête d'être victorieux, d'éclabousser les innocents et nous-mêmes qui sommes les coupables. On a assez, enfin, de rajouter péché, faute sur faute, limite imperfection sur imperfection. C'est pénible, la part, quoi. Enfin, on voudrait quand même que Jésus revienne, quoi. Voilà. Et c'est ça, l'avant. S'entraîner tous les jours, tout le temps, dès qu'on se tourne vers Jésus. Ah, reviens vite. Retour du Christ. Retour du Christ. Retour du Christ. Et le prophète, Jean-Baptiste, il est là. Jean-Baptiste. Justement, quand Jésus parle de Jean-Baptiste, il dit, tiens, celui-là, c'est Élie, c'est vraiment celui du plaisir, la venue, la fin, le retour du Christ, la récapitulation glorieuse, ce char de feu qui consume tout le cosmos, qui rétablit tout en Dieu, ce mouvement vers le ciel. Élie a été emporté sur un char de feu, mouvement vers le ciel, et celui qui a emporté tout. Et Jean-Baptiste, lui, il avait plus qu'Élie, il n'a pas eu besoin d'un char de feu. Il a vu en voyant Jésus, il a vu que c'était l'agneau de Dieu. Et son char de feu, c'est cette vision de l'agneau de Dieu. Ça a été son char de feu, c'est l'agneau de Dieu. Et alors il a dit, toutes vos histoires, c'est pas grave. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que j'ai entendu la voix de l'époux et de l'épouse. Et je suis l'ami de l'époux. Et du coup, je suis en extase. Et je suis ravi, emporté dans le ravissement vers le ciel. C'est pour ça qu'il était emporté dans le martyr. Jésus aussi sur la croix, il a fait pareil. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur la croix, je suis tout. Un clou ici, un clou là, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'a pas pensé une seconde. La plaie ici dans l'épaule, il n'y a pas pensé une seconde. Ça faisait mal, je suis d'accord. Il pensait qu'une seule chose, c'est aller vers le Père. Je vais vers le Père. Il était broyé, précisément par tous ces sentiments qu'avaient les gens, comme on peut être broyé lorsqu'on aime quasiment à l'infini et qu'on ne reçoit qu'un jure de ceux qu'on aime quasiment à l'infini. C'est épouvantable. Et pourtant, malgré cette croix extraordinaire, il ne pense qu'à aller vers le Père, vers le ciel. Ça, c'est le mouvement de l'avant. C'est pendant 4 semaines, l'Église. Jésus, l'Esprit Saint, Marie, tous les saints, tous les âmes du purgatoire qui crient à ceux qui sont sur la terre, devant l'Eucharistie, devant un crucifix, devant une statue de la Vierge, devant une icône de l'amour. Ah, ils disent enfin, mais il n'y a que vous qui pouvez réclamer ce retour de Christ pour que tout parte au ciel. Et pour que le ciel soit emporté, ou du moins que la terre soit emportée dans le feu de la gloire de Dieu éternel, qu'il n'y ait plus cette terre. Avec abandonné aux puissances des ténèbres, quoi. Il faut le désirer, il faut le demander. Il n'y a que nous qui pouvons demander. Les saints ne peuvent plus le demander. Dans le purgatoire terminé, il n'y a plus aucun pouvoir. Nous, on va pouvoir produire. On peut le demander. Nous devons le demander quand c'est le Vatican II. Et vous voyez, en plus, c'est notre génération qui doit le demander. Parce que vous voyez bien que dans la liturgie de la messe, c'est seulement depuis 1967, enfin, depuis les années 70, on peut regarder, c'est seulement. Depuis 1970, que dans chaque prière eucharistique, l'Église, chacun d'entre nous, nous demandons le retour du Christ. il reviendra dans la gloire. Les grands mystères de la foi, proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et dans la prière eucharistique, sans arrêt, il y a encore ces demandes qui sont faites dans la prière eucharistique, par exemple 4, 3. On demande que Jésus revienne pour juger Jésus dans ce jugement. On demande qu'il retourne du Christ. C'est un retour fulgurant. Il se fera en un clin d'œil. Personne ne pourra s'attendre à sa venue. Il ne viendra pas petit à petit. Il viendra d'un seul coup. Et en pleine gloire. On ne pourra pas dire, tiens, cet homme, c'est peut-être lui le Christ, après tout. Non, 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 ne vous inquiétez pas. En pleine gloire. On ne pourra pas se tromper. Donc quiconque vous dit, mais celui-là, c'est le Christ, le nouvel instructeur du monde, vous pourrez être sûr, ce n'est pas ça. Le Christ reviendra dans la gloire. Pour juger les vivants. Et nous le désirons. Et l'Église, vous voyez bien, on est de la génération dans l'Église, 2000 ans, on est les seuls, vous allez dire, à voir, à être appelé par l'Esprit Saint, à demander que Jésus revienne. Et si nous ne le demandons pas, alors j'ai bien peur qu'il reviendra un peu plus tard, que la détresse humaine sera pire, de pire en pire. Et il n'y aura pas d'autre moyen pour sauver le monde que ce désir de l'Église tout entière, de chacun d'entre nous, de vivre à la fois la mort et la résurrection pour qu'elle advienne dans le retour du Christ. Pour chacun d'entre nous, il faut arriver à le désirer. Si nous ne le désirons pas, c'est le signe que nous ne sommes pas en état de grâce. C'est un critère très simple. Souvent, il y a des gens, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en état de grâce. Voilà, là, je vous donne un signe très très simple. Tu te mets devant l'Eucharistie, devant Jésus, tu te dis, voilà, vraiment, j'ai un désir très 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 grand, et en vrai, je ne me force pas pour que Jésus revienne le plus vite possible. Là, tu es en état de grâce, c'est sûr. Ah non, 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 moi non. Ah, tu n'es pas en état de grâce. C'est bon. Vous comprenez, je suis dans une situation un peu inconfortable, j'ai pas régularisé ma situation. Ce serait un petit peu gênant pour moi si je disais non, non. Ah, justement, rétablis mon pote, rétablis. Remets-toi sur les rails, je dis, mets-toi un petit peu dans le bien. Mets-toi dans le bien, splendeur véritatis, enfin. Hein, splendeur véritatis, mets-toi la splendeur de la vérité, enfin le bien, mets-toi dedans, renonce au mal, puis c'est tout. Et puis te prendre le retour du Christ, comme ça tu ne perdras pas. Tu perds rien. Il faudrait renoncer à ça, mais tu renonces à de la souillure, c'est excellent. Et c'est ça. Ah, je reconnais que pour ça, il faut avoir un esprit de pénitence. C'est pour ça que pendant l'Avent, vous voyez, on se revêt, comme vous pouvez le constater, violet. Comme pour le carême. Comme pour le carême. Et dans les premiers temps de l'Église, pendant l'Avent, on jeûnait le lundi, le mercredi, le vendredi. C'est ces trois jours-là que pendant l'Avent, on jeûnait. Pendant le carême, on jeûne tous les jours. Pendant l'Avent, on jeûne le lundi, le mercredi et le vendredi. Comme c'est curieux. Et cette tradition s'est perdue pendant 7 siècles. Elle revient un petit peu aujourd'hui. Déjeuner le lundi, le mercredi, le vendredi. Il y a quelques-uns d'entre vous qui font comme ça, qui savent ça. Bon, d'accord, je sais bien, c'est pas l'Église qui l'a demandé. C'est quelques anges, quelques apparitions, l'ange Gabriel, l'ange Raphaël. Mais ça se sait. Alors, je diffuse. Les gens savent que lundi, mercredi, vendredi, il faut jeûner. Mais pas seulement pendant l'Avent, tous les jours de l'année. La Vierge demande ça, Fatima. Amandi Chiari, Italie. La Vierge demande ça à Yougoslavie. La Vierge demande ça à Lourdes. La Vierge demande ça partout. Lundi, mercredi, vendredi. C'est toute l'année que nous sommes dans cette période de l'Avent. L'Église est entrée dans le dernier Avent. Et ce jeûne d'attente du lundi, du mercredi, du vendredi. C'est comme pour que la Vierge demande, que l'Esprit Saint demande à Jésus-Christ. C'est pour nous faire comprendre qu'on est dans le dernier avant, dans la dernière ligne d'arrivée. Nous ne nous fermerons pas les yeux là-dessus. L'Église le proclame à travers la liturgie et les textes du Concile. Le Pape le proclame à travers ses encycliques. Il rappelle que nous devons nous préparer au dernier avant de l'an 2000. À l'avant, vous savez, le nouvel avant de l'an 2000. C'est la première encyclique. Et à chaque fois, et qui peut faire l'illusion, l'allusion à ça, il le fait, croyez bien. Et puis la Vierge aussi, qui nous demande de nous préparer. Et nous-mêmes, nous tous, qui avons touché quelque chose de la grâce de l'Immaculée, de cette impassibilité de confiance totale de Saint-Joseph, l'époux de l'Immaculée, le Père de Dieu. Nous tous qui avons touché au cœur blessé du Christ. Nous tous qui avons goûté à la saveur de la grâce. Et au don du Saint-Esprit, nous tous, nous ne pouvons plus supporter que le monde soit aux mains de l'Antichrist. Nous ne pouvons plus le supporter. Et le seul moyen, c'est de demander que la volonté du Père se fasse. Et nous sommes dans cette attente de la volonté du Père se fasse. Et la volonté du Père, c'est que le Christ comprenne tout. Mais il ne peut pas le faire si nous ne lui demandons pas. Et c'est pour ça que nous sommes dans ces 4 semaines où nous demandons à Jésus de venir. Alors, à règle. Ça, c'est la théorie, mais non la pratique. Quand tu te réveilles le matin, à genoux au pied de ton lit. Tu viens de te réveiller, immédiatement, à genoux au pied de ton lit. Parce que quand Christ revient, il faut que ce soit immédiat, soit prêt. Or, vous savez, il y a des trompettes. Oh, genoux au pied. Réveille ça, il faut s'entraîner. Que le Christ est sauvé. Tous les matins, tu te réveilles, assis. Tu n'attends pas 4 secondes. Tu n'attends pas 30 secondes. Tu n'attends pas une heure, hein, Michael. Hein. Tu n'attends pas une heure. Tout de suite, à genoux, tu te sens. Et tu fais un acte d'adoration. Tu es suspendu à la Créateur de Dieu. Et lui, il t'attire. Et tu pars. Ainsi, dans ton acte d'adoration, étant à genoux, comme Élie sur son champ de feu, dans le cœur du Christ ressuscité qui glorifie le Père. Après, tu peux te lever, ça fait 5 secondes, tu peux bien le faire. C'est pas compliqué, t'auras pas mal aux genoux, t'inquiète pas. Deuxièmement, tu prends ton petit relâche, ou tu fais le jeûne, si c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Et tu te débrouilles pour faire un deuxième acte d'adoration dans ta journée. Je vous conseille de le faire avant de commencer le travail. Avant de commencer le travail, il faut également se mettre à genoux. Vous ne voulez peut-être pas vous mettre à genoux devant les secrétaires, ça se met les gars. Vous êtes allé aux chiottes, c'est pas grave. Moi, quand j'étais à Paris, je ne sais pas, j'allais dans les cabinets. Je vous promets. Pourquoi pas? Ça t'intéresse à bien, elle le faisait bien. Bon, donc, mettez-vous à genoux. Ne commencez jamais un travail sans le mettre à genoux. Sachant que le travail principal que cette terre a connu, la mémoire que nous en avons, c'est quand la croix du Christ est plantée sur le Golgotha. Là, il a transformé et recréé tout ce qui avait été créé par le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Tout a été repris et retransformé, transfiguré de l'intérieur en germe. Vous commencez le travail, mettez-vous à genoux, mettez-vous au pied de la croix, et laissez-vous transformer par le travail du Christ, et vivez de la résurrection. Et là, demandez au Christ de descendre et de revenir dans votre travail. Et redescendez avec lui pour travailler de manière chrétienne, parce qu'on ne travaille pas en dehors du Christ. Et le soir, quand vous vous couchez, sachant que c'est dans la nuit que le Christ reviendra, mettez-vous à genoux une troisième fois. Et mettez-vous comme ça, tout simplement, ou les bras en croix, ou les bras comme ça, comme faisait, paraît-il, d'après Marie d'Acrida, Saint-Joseph. Et puis, dites, attendez qu'il y ait ce désir en vous, que l'Esprit Saint va faire jaillir de manière miraculeuse. Ce désir, qu'enfin Satan soit écrasé définitivement, que le péché soit rendu impossible définitivement, que Christ revienne et vous le demandez, Seigneur, je voudrais tellement que tu reviennes, je te le demande en mon nom, au nom de tout ce que j'aime, au nom de toute l'Église militante, que tu reviennes, que tu reviennes, que tu reviennes, que tu reviennes. Et qu'en fait, à ce moment-là, comme le prophète Isaïe, vous pouvez prendre les passages du prophète Isaïe. D'ailleurs, l'Église prend les passages du prophète Isaïe pendant toute la liturgie de l'Avent. Ah, mais si tu déchirais les cieux, si tu descendais, enfin, jusqu'à quand nous laisseras-tu gémir? Ah ouais, mais ce serait dommage de raccourcir l'histoire. Mais l'histoire n'est pas raccourcie par la gloire de Dieu. Espèce d'athée. Ah mais je voudrais encore vivre un peu dans mon corps. Mais tu es au ciel dans ton, avec ton corps. Ah mais je voudrais pas uniquement Dieu. Je voudrais aussi aimer ma femme que j'ai tellement aimée. Et mes enfants, et mes copains, les retrouver. Mais tu les retrouveras, extra verbum. Tu pourras causer avec saint Thomas. Tu pourras causer avec Jeanne d'Arc. Tu pourras causer, on causera. On va faire plein de trucs. Ah, mais je pourrais plus manger de fromage de gruyère. Mais tu pourras manger une fromage de gruyère. Tu pourras faire tout ça. Tu seras rassasié, d'accord. Mais tu pourras prendre du fromage de gruyère. Comme tu es rassasié, tu n'auras pas besoin d'en manger. Mais tu verras un fromage de gruyère glorieux. Et ça continuera. L'histoire continue, mais j'allais dire dans une communication d'éternité. Et c'est ça que nous désirons. Nous ne raccourcissons pas l'histoire. Au contraire, nous la faisons resplendir dans la très sainte Trinité. Nous lui donnons sa signification. Elle devient la véritable histoire de la création. Et qui décidera de ça? C'est l'Église des derniers temps. Et l'Église des derniers temps, c'est nous. Pas besoin qu'on soit des millions, hein. 150 soldats, ça suffit. 153 soldats, ça devrait suffire. Parce que le génome de l'Église, c'est 153, d'après saint Augustin. Alors, hein, 144 000, si vous voulez. 153 000, oui, d'accord, 153 000, ça me plaît. Ça me plaît, parce que moi, c'est le symbole de l'Immaculée Conception, ça. Hein. Alors, c'est 153 qui vivent complètement de l'Immaculée Conception. Qui se vivent entièrement en elle, pour qu'il soit entièrement changé à l'intérieur de la conception, qu'il soit complètement anéanti en elle, changé en elle, que leur union transformante soit entièrement en elle, transsubstantiée mystiquement en elle, qu'il ne reste plus qu'elle, 153 qui fait ça, 1000. Ça va venir vite, vous savez. Ne t'inquiète pas. Et c'est super. Vous savez, moi, personnellement, je préfère que ça vienne assez vite. Parce que si je me retrouve au ciel, à l'âge, je crois, 75-80 ans, je me rappelle quand j'avais, je sais pas, 25 ans, oh, je suis nul, viens. Maintenant, je me trouve vieux, moche, gros, adipeux. Qu'est-ce que ce sera quand j'aurai 80, 70, ça. Ce sera 0-0. Non, moi j'aimerais bien, moi, que ce soit le plus vite possible. Ah, ça avait été avant encore. Je me rappelle quand j'avais l'âge de 16 ans, j'ai passé mon bac. Je disais, ça m'a passé. Mais je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais que ce soit maintenant. À 16 ans, en pleine forme. C'est vrai, le sens de la beauté à 16 ans, c'est très fort. Et l'histoire se termine dans la beauté. C'est le but de l'histoire, terminer dans la beauté. C'est par la vérité, l'adoration et par l'amour que l'histoire va vers sa beauté. Ça ne veut pas dire que la beauté est la cause finale de l'humanité, c'est Dieu qui est la cause finale. Voilà, alors tout simplement, faisons ces actes vigoureux pour être prêts. Je vous rappelle ce que faisait par exemple le Père Jean à un moment. Le Père Jean disait, eh bien, il faut se préparer. Eh bien, au retour, eh bien, du Christ. Est-ce que quelqu'un a une objection à poser? Personne. Donc, puisqu'il va venir l'ami comme un voleur, eh bien, ne dormons pas. Est-ce que quelqu'un a une objection? Donc, si tu t'endors, eh bien, lève-toi. Et si tu t'assieds, eh bien, prie. Et si tu as l'impression de t'endormir, eh bien, lève-toi et va marcher. Au bout de 2 heures, le sommeil aura disparu. Alors, retourne dans ta cellule. Est-ce qu'il y a une objection? Il partait vers 2 heures, il revenait dans sa cellule, et puis se mettait sur sa caisse. Et c'est les souris qui montaient sur lui, qui maintenaient éveillé. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment il faisait. C'est un prophète, c'est pour nous faire comprendre que c'est vrai. Jésus reviendra la nuit, vous savez. Il fera nuit sur la terre. Alors c'est pour ça qu'on soit vigilant, si vous voulez, que tout de suite, le matin, dès que, si on peut précéder le retour de du jour, ça peut mettre mon réveil avant qu'il ne fasse jour. Faites-le. Faites la sieste après, si vous voulez, c'est pas grave. Mais il faut se lever avant le lever du jour. Mettez-nous à genoux. Tout de suite, dès qu'on se réveille. Le soir, réclamez le retour du Christ. Et ça, vous y restez. S'il faut rester 10 minutes de suite, restez 10 minutes de suite jusqu'à ce qu'il y ait ce désir et cet appel et ce cri. Seigneur, vraiment, je le veux. Qui ne peut venir que de Dieu et que de l'Esprit. Et quand vous travaillez dans la journée, il faut se remettre dans le Christ qui a transformé et descendre avec lui pour que notre travail soit fait aussi par le Christ. Voilà mes 3 règles. Les 3 règles que je vous propose. Elles sont simples. Elles ne vous donneront pas beaucoup de temps. Elles sont faciles. Et si on fait ça, ce que je disais à une paroisse là, au bord des gorges du Verdon, si vous faites ça, il y avait plein de gosses, si vous faites ça tous les jours, eh bien, je vous promets que le jour de Noël, quand Jésus viendra à minuit, dans toutes les églises, dans la crèche, je vous promets que votre cœur s'ouvrira aux deux et que vous aurez la preuve que Dieu existe. Et tous ceux qui ne le feront pas n'auront pas cette preuve. C'est sûr. Voilà. Alors, on va demander à Jésus de nous aider à l'aide des apôtres du dernier temps. Et puis, à avoir cette espèce de caractère, de force, de flamme, d'amour, de prophétie, extraordinaire pauvreté de Jean-Baptiste.